Vous écoutez RTL. RTL.
Pasteur est l'homme le plus important de tous les temps. Le pasteurisme a très clairement sauvé des milliards de personnes.
Jusqu'à 22h,
Champollion étudie à la fois les divinités égyptiennes et la chronologie historique.
La curiosité est un vilain défaut.
Marie commence à analyser les minéraux. Pierre la rejoint très vite après ses premiers succès. Ainsi, par élimination, il pense arriver au minerai radioactif le plus pur possible.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ils ont révolutionné le monde et ils sont français. Dans la curiosité, on vous raconte l'histoire de ces inventeurs, ces scientifiques dont les idées ont bouleversé notre quotidien. Nous sommes avec le journaliste scientifique Hubert Delobette. Bonsoir.
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 Bienvenue. Il y a les plus célèbres. On vient d'en parler. Pasteur, Champollion, Marie Curie, les frères Lumière. Et puis il y a les autres. Des dizaines d'autres génies moins connus. On va commencer par l'inventeur des conserves. Qui était Nicolas Appert et quand vivait-il ?
Alors Nicolas Appert, il est né en 1750 dans un petit village de Champagne. Donc c'est le 9e enfant d'une famille de restaurateurs qui tient une auberge assez réputée dans la ville. Et il est horrifié en fait, Nicolas Appert, en grandissant, de voir le gâchis alimentaire qui est généré à la fois dans l'auberge et puis également dans les exploitations agricoles environnantes. Et il se dit qu'il faut faire quelque chose pour essayer de conserver un peu plus facilement tous ces aliments.
Il s'en rend compte notamment quand il participe à la préparation des confiseries. Alors c'était quoi les confiseries à l'époque ?
Oui, alors c'est marrant parce que les confiseries, c'est pas du tout ce qu'on imagine aujourd'hui, les dragées, les bonbons, toutes les sucreries qui nous abîment nos dents. Mais les confiseries,
c'est bon quand même.
Ça représente plutôt en fait tout ce qui est volaille, par exemple, que l'on conserve dans la graisse, les fruits qu'on conserve dans l'alcool, ou dans le vinaigre, finalement tous ces produits, que l'on fume, que l'on boucane, que l'on traite par l'alcool, donc ça représente l'ensemble de l'alimentation. Et donc Nicolas Appert se passionne pour ces confiseries, il va essayer de mettre au point donc une technique plus efficace pour conserver les aliments.
Comment on conservait les aliments frais à l'époque ?
Alors il y avait plusieurs techniques, ce qu'on vient d'évoquer, on fumait beaucoup les aliments,
ouais.
On traitait aussi beaucoup par le sel, tout ce qui est charcuterie, viande, beaucoup par l'alcool, donc les fruits, et puis également pas mal par l'huile, de conservation dans l'huile. Mais malheureusement, toutes ces techniques étaient assez limitées, coûtaient assez cher, parce qu'il fallait beaucoup de matières premières, comme la graisse, le sel.
Et puis en 1784, Nicolas Appert va ouvrir une confiserie à Paris, il va faire une découverte.
Voilà, c'est là que le basculement s'opère, qu'il y a la rupture technologique. Nicolas Appert donc ouvre cette confiserie à Paris, qui s'appelle Renommée, qui devient donc très, très réputée. Et là, il fabrique des sirops. Et il subodore qu'en fait, le feu, la flamme qu'il utilise pour faire ses sirops tue certainement les ferments qui provoquaient. Donc, pour l'époque, on ne les connaît pas, les ferments, on ne sait pas qu'il y a des bactéries, des levures qui abîment les aliments. Mais il imagine donc que ce feu va tuer ces ferments. Il a bien raison. Et il va donc mettre des petits pois, des carottes, en fait, des légumes dans des récipients particuliers, hermétiquement clos. En fait, des bouteilles de champagne.
C'est drôle, ça.
Voilà. Donc, ce qu'il est originaire de Champagne, ouais. Il va utiliser ses récipients. Et c'est le hasard, finalement, parce que ces bouteilles de champagne sont très, très, très épaisses, donc elles peuvent résister à la chaleur. Donc, il les remplit à bord, il met un bouchon de liège, il les chauffe à 100 degrés. Finalement, il fait un principe de stérilisation, de bain-marie.
Et avant, conserver combien de temps ces conserves, pré-conserves ?
Alors, il arrivait à conserver plusieurs années. Donc, il a testé ça pendant longtemps. Et pendant plusieurs années, donc, on arrivait à conserver les aliments, ce qui était véritablement une révolution pour l'époque.
Nicolas Appert va-t-il s'enrichir grâce à cette invention, les premières conserves ? Réponse dans un instant.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Avec le journaliste scientifique Hubert Delobette, on vous raconte l'histoire de ces Français qui ont révolutionné le monde. Des inventeurs, des scientifiques, bref, des génies. Tout simplement, vous aviez commencé à nous raconter l'histoire de Nicolas Appert. On est à la fin du 18e siècle. C'est un restaurateur confiseur qui va découvrir le principe de la conserve en enfilant en fait des aliments dans des bouteilles de champagne, région de laquelle il est originaire, et en chauffant, c'est ça, la bouteille très chaudement. ces bouteilles se sont conservées vraiment quoi, des décennies presque, enfin, on va dire quelques années. En tout cas. Est-ce qu'il s'est enrichi, Nicolas Appert, grâce à son invention ?
Alors, vous avez bien résumé, effectivement, c'est tout à fait ça. Et malheureusement, non, il va pas s'enrichir. Il aura une fin tragique. Il choisit finalement de ne pas breveter son invention, son innovation, et de l'offrir à l'humanité entière. Donc, il décide en 1810 de sortir un livre qui s'intitule donc « L'art de conserver pendant plusieurs années des substances animales et végétales ». Donc, où il explique tout le fonctionnement et tout son process. Donc, ce livre va connaître un immense succès et évidemment donc divulgue cette technologie. Donc, les Anglais, par exemple, vont être absolument admiratifs de ce Nicolas Appert et vont les lire bienfaiteurs de l'humanité. Voilà, nos ennemis irréductibles, puisque grâce donc à ce Nicolas Appert, et donc leur marine va pouvoir donc voyager et se nourrir facilement pendant des mois et des mois.
Mais vous êtes en train de dire qu'il a été plus reconnu par les Anglais que par les Français ?
Exactement, exactement. Oui, parce que finalement, donc il va mourir dans la misère à l'âge de 90 ans.
Il avait des enfants ?
Il n'avait pas d'enfant et il n'y aura même pas assez d'argent pour lui offrir une sépulture. On le mettra dans la fosse commune, alors que voilà, ça a été un bienfaiteur de l'humanité, voilà, grâce à cette révolution alimentaire qu'il a menée.
Hubert Delobet, vous racontez cette histoire dans un livre, « Ces Français qui ont révolutionné le monde », c'est publié aux éditions Le Papillon Rouge. Il y en a plein d'autres, par exemple, on va passer au rayon propreté maintenant avec un médecin, le docteur François Delaboste. Qu'est-ce qu'il invente en 1872 ?
Alors j'adore François Delaboste. C'est un médecin donc, qui travaille en Normandie et qui est médecin-chef donc, d'une prison qui porte le nom de Bonne Nouvelle.
Donc, Sauf pour ceux qui y rentrent.
Hein. Voilà, pour ceux qui y rentrent, c'est pas une très bonne nouvelle. Et un jour de novembre 1872, donc, il se promène dans la prison. Alors, on est dans un contexte particulier, juste après la Commune de Paris, la guerre franco-prussienne de 1870, les prisons sont surchargées et les détenus donc sont des conditions sanitaires déplorables. Et le gouvernement donc demande aux autorités pénitentiaires donc de trouver un système pour améliorer l'hygiène des détenus. Il se trouve que ce jour-là, quand il traverse la cour de la prison, on est en train de soigner, entre guillemets, des prisonniers récalcitrants avec des jets d'eau froide. On connaît tous cette image où les prisonniers qui sont atteints de démence, on les bombarde avec des jets puissants d'eau froide. Et il se dit, mais on pourrait peut-être adapter ce système de jets d'eau froide à une pluie d'eau chaude qui finalement permettrait de laver efficacement ces détenus. Ça paraît fou, mais à l'époque, on ne connaît pas le principe de la douche. C'est un système qui n'a pas été inventé. À la fin du 19e.
Ah ouais. 1872. Ouais. Donc il choisit un détenu, pas n'importe lequel, c'est ça ? Il le choisit particulièrement sale ?
Oui, c'est ça, exactement. Il choisit un détenu qui travaillait dans un atelier où on fabrique des boutons de chemise à partir de cornes, donc ce qui génère beaucoup de poussière noire qui s'incruste, il est très sale. Hein. Et donc on fait le test, on prend tout simplement un arrosoir d'eau chaude, et devant le directeur de la prison, enfin un certain nombre de personnes, on lave donc très rapidement ce personnage qui passe de noir à blanc. Donc voilà,
c'est il calcule le nombre de litres d'eau utilisée.
Voilà, c'est ça, la température qu'il faut de la douche. Bon, pour l'instant c'est très rudimentaire, hein, mais il va ensuite donc développer une douche beaucoup plus sophistiquée.
Elle ressemble à quoi ?
Alors donc c'est un réservoir d'une centaine de litres chauffé par des serpentins d'eau avec de la vapeur. Ensuite il y a une série de pommeaux qu'il perce comme nos pommeaux de douche actuels. Il en met un nombre de 8, séparés donc par des petites cloisons. Donc ça fait 8 douches individuelles. Voilà, vient de naître donc officiellement la douche dans les prisons françaises.
Et c'est une invention, cette douche du docteur Delaboste, qui va se répandre, se démocratiser rapidement ?
Non, malheureusement, hein, c'est marrant parce qu'en France, on a toujours finalement un temps de retard. Il va falloir attendre 20-30 ans. Elle se démocratise simplement dans les casernes et les prisons, mais pas dans le domaine public. Il va falloir attendre donc 30 ans plus tard à Bordeaux pour que s'ouvre des douches collectives où on appelle ça de manière très jolie la douche en pluie. Voilà, donc c'est le premier pas vers la démocratisation de la douche à l'intérieur des bâtiments et des maisons.
Toujours à propos d'hygiène, on vous raconte maintenant l'histoire de l'homme qui a inventé la lessive en poudre. Il avait un nom prédestiné.
Nicolas Leblanc. Oui, c'est effectivement, c'est drôle, il faut le faire.
Il faisait quoi comme métier ?
Alors, Nicolas Leblanc, c'est un médecin. Médecin qui est donc chirurgien du roi. Donc, et il travaille surtout pour le duc d'Orléans.
Et juste avant la Révolution française, voilà, dans les années 1780 à peu
effectivement
près.
On est revenu un petit peu en arrière, on est à l'époque révolutionnaire, et il se passionne pour la chimie, donc avec le duc d'Orléans aussi, qui est un noble clergé passionné de science. Et il se trouve qu'à l'époque, donc le gouvernement, la France importe beaucoup de soude. La soude, c'est un produit avec lequel on blanchit le linge, on dégraisse l'aine, on fabrique du savon. Et cette soude, donc, elle est fabriquée à partir d'une plante qui est récoltée essentiellement sur les côtes espagnoles. Donc, on fait venir à grands frais cette soude naturelle d'Espagne. Et le gouvernement français, donc, va proposer un prix à celui qui arrivera à fabriquer de la soude artificielle. Et ce jeune Nicolas Leblanc donc va réussir avec les capitaux du duc d'Orléans à fabriquer de la soude artificielle, les fameux cristaux de soude qui sera la base de notre lessive d'aujourd'hui.
Et il ouvre une première usine en 1791. Elle est ouverte où cette usine ?
Alors elle s'ouvre donc à Saint-Denis, à côté de la Seine, puisqu'on va pouvoir en exporter. On fabrique des tonnes et des tonnes de soude artificielle dans cette usine. Mais là encore une fois, malheureusement, ça va mal terminer, mal finir, pour la bonne raison que comme vous le disiez tout à l'heure, on est en pleine période révolutionnaire. On coupe la tête de ce pauvre duc d'Orléans, donc il ne peut plus financer l'usine. L'usine est saccagée, pillée. Et Nicolas Leblanc se trouve démuni. Son usine est pillée. Les révolutionnaires lui ont fait un chantage horrible en lui disant il faut absolument que vous délivriez, parce qu'il avait pris un brevet, on lui demande à ce qu'il
révèle ses secrets,
ses brevets, qu'il divulgue publiquement son brevet, ce qu'il va faire. Et de désespoir, il va s'enfoncer un poignard dans le cœur, donc au milieu de son usine dévastée de Saint-Denis.
Et c'est une invention qui va faire fleurir après en Angleterre, c'est ça.
Voilà, donc les Anglais, qui sont toujours les premiers à réagir, à tirer, vont fabriquer énormément de soude et la diffuser dans le monde entier.
D'autres inventeurs vous attendent sur RTL. Ils ont révolutionné le commerce.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est bientôt Noël, vous allez peut-être faire les grands magasins ce week-end en sillonnant les allées. Vous penserez à monsieur Aristide Boussicot, le pionnier du commerce moderne. Hubert Delobette, vous racontez son histoire dans votre livre « Ces Français qui ont révolutionné le monde ». On est en 1855. Qui est cet Aristide Boussicot ? Comment va-t-il avoir, ou quand, une révélation ?
Alors ce brave Aristide Boussicot se promène dans l'exposition, dans les allées de l'exposition universelle de Paris. Il a tout d'un coup une idée qui jaillit, parce qu'il s'est perdu dans les allées. Il se dit, mais finalement, c'est peut-être ça l'avenir du commerce. Plutôt que qu'avoir des commerces individuels où on vend des produits bien spécifiques, il faudrait faire un grand magasin où on trouverait de tout, à l'image de l'exposition universelle. Alors, il est actuellement propriétaire d'un petit magasin qui s'appelle Le Bon Marché, à Paris. Une petite boutique, il a commencé avec 25 mètres carrés.
C'est déjà rue de Sèvres, dans le 7e ?
Voilà, exactement, rue de Sèvres. Alors, au départ, c'est un Normand. Son père avait une boutique de chapeaux en Normandie, dans l'Orne. Mais bon, il s'est rapidement senti un peu à l'étroit dans ce magasin de chapeaux. Donc, il était là à Paris. Il a travaillé au Bon Marché, et là, donc, en 1855, il a cette idée fulgurante en disant, il faut qu'on révolutionne le commerce. Il va donc racheter les petits commerces à côté de Bon Marché, et passer donc de 25 mètres carrés à 5000 mètres carrés quelques années plus tard. Quelque chose d'assez incroyable.
Donc c'est déjà immense pour l'époque, sauf qu'il voit encore plus grand et il veut construire un bâtiment dévolu au commerce. Il le fait avec qui ?
Alors il le fait avec Gustave Eiffel, qui est l'architecte en chef donc de ce magasin. Et tous deux élaborent un grand magasin très théâtralisé, avec beaucoup de luxe. Il y a des grandes vitres, il y a beaucoup de lumière. On met des ascenseurs pour la première fois, des escaliers roulants, des escalators. Ça s'est jamais vu, les Parisiens sont ébahis. Des grandes vitrines, finalement, un peu comme les vitrines actuellement qu'on voit dans Paris, où on change régulièrement la déco. il fait quelque chose de luxueux et de très attractif qui va faire florès dans le monde entier.
C'est le premier grand magasin d'histoire, on peut dire ça?
Oui, c'est ça. Aristide Boussicot est le pionnier finalement du grand magasin.
Il va être copié alors, j'imagine.
Oui, voilà, il est copié alors très rapidement à Rhodes en Angleterre, Macy's à New York, fait dans tous les pays. On s'inspire directement et on se cache pas pour le dire du magasin au bon marché d'Aristide Boussicot.
Aristide Boussicot qui instaure des règles dans son grand magasin. Ça fonctionne comment?
Alors c'est fou à quel point il a vraiment innové et montré finalement les règles du commerce actuel. À l'époque, on marchandait beaucoup, c'était la tradition. Pour la première fois, donc Aristide Boussicot va dire on va faire des prix fixes et définitifs. Voilà. Il innove en inventant les soldes. Deux fois par an, on aura donc des prix cassés. Il innove aussi en remboursant le client mécontent. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui satisfait ou remboursé.
C'est génial, tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, oui. La
vente par correspondance, c'est
voilà,
lui.
Voilà, vous avez tout à fait raison. La vente par correspondance, c'est lui le premier qui fait un catalogue avec 1500 références, 1500 produits qui est envoyé en France entière et qui va donc Manu France va s'en inspirer pour ses catalogues. Voilà, directement, voilà.
Et c'était quel type de patron tyrannique ou plutôt social, cet Aristide Boussicot?
Non, en plus, Aristide Boussicot, c'était finalement quelqu'un de très humain, un patron humaniste, puisqu'il va faire un certain nombre d'avancées sociales dans son entreprise. Par exemple, à l'époque, les vendeurs étaient convivables à Merci, on n'avait pas de vacances. Donc, pour la première fois, il donne des jours fériés. Également, il instaure un service médical gratuit pour ses salariés.
La cantine aussi.
La cantine.
Ça semble normal, sauf que ça ne l'était pas à l'époque.
Ça ne l'était pas à l'époque. Également, une caisse de retraite, c'est-à-dire que si vous avez travaillé plus de 20 ans au bon marché, vous aurez droit à une petite retraite plus tard. C'est ce qu'on verra 30 ans après. Quoi. Ça a été vraiment un précurseur extraordinaire.
Aristide Boussicot qui meurt en 1877. Comment va sa petite entreprise quand il disparaît?
Son entreprise est extrêmement florissante. Il a multiplié par 200 son chiffre d'affaires en 25 ans. Voilà, c'est assez incroyable. Et puis voilà.
Est-ce qu'il reconnaîtrait le bon marché d'aujourd'hui? Il a beaucoup changé, beaucoup évolué?
Je ne pense pas, non, parce que finalement, il a mis au point toutes les techniques modernes de commerce et de marketing.
C'est vrai qu'il a même inspiré Émile Zola?
Oui, Émile Zola, j'ai lu récemment Au bonheur des dames, qui est la suite des Rougon-Macquart, et où on voit effectivement ce personnage largement décrit par Zola qui compare donc le bon marché à la cathédrale du commerce, et voilà, et qui décrit donc Aristide Boussicot comme un ticoun des affaires, enfin voilà.
Et ça reste le grand magasin le plus luxueux de Paris et le plus cher de Paris. Le bon marché.
Le bon marché, c'est vrai que ça existe encore. Et en fait, il y a une idée géniale au départ, celle que vous avez décrite quand il se balade dans les années de l'Expo Universelle, c'est que aller au grand magasin, c'est déjà un événement, c'est déjà une idée de balade d'une certaine façon pour les Parisiens. C'est simplement aller voir à quoi ça ressemble. Et puis du coup, quand on y est, éventuellement, on consomme. On va vous raconter l'histoire de certains de ces inventeurs, mais des inventeurs maudits. Par exemple, saviez-vous qu'Internet a été créé par un certain Louis Pouzin, vous ne le connaissiez pas, c'est normal, on vous raconte pourquoi.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ils étaient forcément curieux, ces Français qui ont révolutionné le monde. On vous raconte leur histoire avec le journaliste scientifique Hubert Delobette. On va parler d'informatique maintenant et de ce qui bouleverse notre quotidien et l'économie de presque tous les secteurs, c'est Internet. On découvre dans votre livre publié aux éditions Le Papillon Rouge que c'est un Français qui en a été l'architecte, qui était Louis Pouzin.
Alors Louis Pouzin, c'est un polytechnicien très brillant, originaire d'un petit village de la Nièvre, qui complète sa formation au MIT, aux États-Unis, dans le domaine de l'informatique, qui commence à naître dans les années 50. Et en 1966, donc, il est recruté par le général de Gaulle, qui lance ce qu'on appelle le plan calcul.
C'était quoi l'objectif du plan calcul?
Alors le plan calcul, il y a plusieurs donc objectifs, il y a plusieurs sous-programmes, dont un qui s'appelle le projet Cyclade. Les Cyclades, donc, c'est un archipel, comme tout le monde le sait. En Grèce, 250 îles que le gouvernement grec essaie de relier entre elles. Donc on voit le parallèle avec le futur Internet. Là, dans ce projet Cyclade, il s'agit de réunir ensemble des ordinateurs de différentes universités françaises. Donc voilà, Louis Pouzin a cette mission et il va la mener avec succès en inventant donc le datagramme, qui est on va pas rentrer dans les détails, mais enfin un protocole d'échange d'informations, qui permet donc de relier une vingtaine d'ordinateurs d'universités françaises à travers le monde.
Donc c'est révolutionnaire, j'imagine. Ouais.
Oui, alors tout à fait. À l'époque, on est bien loin d'Internet.
Ça lui prend beaucoup de temps pour réussir à créer ce datagramme.
C'est un gars extrêmement brillant, un bourreau de travail. Hein. J'ai beaucoup lu d'articles sur lui. Et évidemment, bon, on peut imaginer que ça prend un certain temps. Il y a une équipe autour de lui. Mais c'est un personnage qui arrive à faire les choses assez facilement.
Et pourtant, on ne connaît pas son nom. Louis Pouzin, personne ne connaît son nom, ou quelques initiés. Pourquoi la France n'est pas devenue leader du web grâce à son invention?
Je trouve ça infiniment triste. Il réussit en 1975 à inventer l'ancêtre d'Internet, mais il se trouve qu'en mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing donc arrive au pouvoir et décide donc d'abandonner ce projet Cyclade pour lancer un autre qui est le Minitel. Voilà. Donc le Minitel avec le succès que l'on connaît.
Ça a été un succès français, mais pas un succès international.
Voilà. On a parié à l'époque sur le mauvais cheval. Donc on a parié sur le Minitel et pas sur Internet.
Mais
donc,
ce datagramme, qu'est-ce qu'il devient? Puisqu'il a inventé un système quand même.
Alors les Américains ont repris mot pour mot ce datagramme et ont donné naissance à l'ARPANET, donc, qui est l'ancêtre d'Internet. Et ils ont officiellement reconnu que Louis Pouzin donc, avait créé cet Internet, qu'il est le père de l'Internet.
Autre inventeur maudit, c'est dans le même domaine et puis à la même époque. François Jernel, c'est un ingénieur. Que va-t-il inventer?
Alors François Jernel, lui aussi, effectivement, vous avez tout à fait raison, martyr de la science. Au cours de l'hiver 1973, il crée dans la cave de son pavillon de banlieue parisienne le premier micro-ordinateur.
Il s'appelle comment?
Il s'appelle le Micral. Et le Micral qui veut dire donc en argot le petit. C'est son père qui lui bricole un boîtier en aluminium dans lequel il met les microprocesseurs, les fils, etc.
Pourquoi il sert son Micral?
Alors ce Micral, il est en fait pour l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, tout simplement pour mesurer les vapotranspiration des sols. Ce qu'il arrive à faire de manière parfaitement lisible et efficace. Donc le Micral marche très bien. Il est commercialisé donc 8500 francs à l'époque et beaucoup d'entreprises donc décident de l'acheter. Alors ce sont des compagnies d'assurance, de chemin de fer, des banques, des sociétés de transport.
Mais attendez, je comprends pas bien. C'est une machine pour calculer l'évaporation des sols ou c'est un micro-ordinateur?
Alors c'est une machine, c'est une espèce de, on pourrait dire ça, une grosse machine à calculer. Voilà. Donc on mesure l'évapotranspiration des sols grâce à des capteurs et puis en plus on peut analyser avec des diagrammes. Voilà. Et ensuite donc on peut faire ce qu'on veut. Donc par exemple dans les domaines de transport, c'est pour calculer les horaires, mettre au point des systèmes de calcul.
Mais pourquoi c'est un inventeur maudit? Finalement, c'est François Jernel.
C'est un amateur maudit parce que finalement, il aurait pu avoir le même destin et il le dit clairement dans des interviews qu'il a données plus tard. Il aurait pu être le Bill Gates
ou le Steve Jobs
de l'époque,
parce
tout à fait.
Il invente ça 11 ans avant le premier Macintosh.
Donc, 11 ans avant le premier Macintosh.
Il a une décennie d'avance sur Steve Jobs.
Oui, exactement.
Et qu'est-ce qui manque alors?
En fait, on a tout simplement, parce que l'entreprise pour laquelle il travaillait, qui s'appelait R2E, a été rachetée ensuite par Bull et Bull a décidé de miser sur les gros ordinateurs de l'époque, les gros ordinateurs style IBM, et de laisser de côté le petit ordinateur domestique, micro-ordinateur que l'on connaît aujourd'hui. Et encore une fois, on s'est trompé.
Heureusement, il y a aussi...
Il y a du regret dans votre voix. Hein.
Oui, mais heureusement, Hubert Delobet, il y a aussi dans votre livre, ces Français qui ont révolutionné le monde, des success stories. Par exemple, Roland Moreno, c'est l'inventeur de la carte à puce. Sa première idée, c'était pas une carte comme celle qu'on a tous, c'était quoi?
Alors c'était marrant, c'est un petit microprocesseur dans une bague, que l'on portait au doigt et que l'on aurait passé donc devant un lecteur ensuite pour payer le commerçant ou retirer de l'argent. Donc rapidement, on s'est rendu compte donc la bague était peut-être pas très très pratique et on l'a transformée dans une carte plastique, ces fameuses cartes donc que nous connaissons tous, que nous avons tous dans nos porte-monnaies.
Ouais. Donc lui, contrairement à beaucoup d'autres dont on a parlé ce soir, il dépose un brevet, mais il se passe beaucoup de temps avant la commercialisation, l'utilisation en tout cas par le grand public. Pourquoi ça coince en fait?
Vous avez raison, oui, il se passe à peu près une bonne dizaine d'années, parce qu'il y a toute une infrastructure très lourde à mettre en œuvre. Si l'on prend par exemple le système de paiement avec les distributeurs automatiques, il faut installer tous les distributeurs aux quatre coins de la France, ou les relais, les terminaux chez les commerçants, mettre en place un système de télématique, de transmission, donc c'est un système assez lourd. Donc Moreno a l'idée en 75 et ce sera donc 10 ans, 12 ans après, qu'on commencera à avoir les premiers distributeurs de billets. Et surtout, les premières cabines téléphoniques, c'est là où...
C'est là où on va utiliser pour la première fois les cartes à puce.
Voilà, vous avez raison, c'est donc là, dans le système de la téléphonie où on va voir apparaître les premières cartes à puce de Roland Moreno.
Comment il a l'idée de la carte à puce?
C'est marrant parce qu'il a l'idée, il a raconté en dormant.
Non, ces fameux rêves qu'on se réveille, on fait « Ah, oh, j'ai inventé un super truc, on ne retrouve pas, lui, il a retrouvé. »
Qu'est-ce que je peux dormir alors?
C'est ça, écoutez, se réveiller un moment, c'est ça le problème.
Roland Moreno disait qu'il fallait beaucoup dormir, que c'était pour lui une source de créativité. Il avait peut-être raison d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il a vraiment imaginé la carte à puce en dormant.
Enfin, la bague à puce.
La bague à puce, il s'est levé un matin avec, voilà, l'idée avait jailli.
Sauf que, je vous interromps, Hubert Delobet, c'est très mal poli de ma part.
C'est vrai, Thomas.
Je m'excuse. Mais il y a quand même une question de sécurité qui est très importante sur les cartes à puce. Les premières cartes à puce de Roland Moreno, est-ce qu'elles étaient très fiables de ce côté-là?
Alors, vous touchez du doigt quelque chose effectivement de très marrant. C'est que les premières cartes étaient très facilement piratables à travers un petit jouet électronique, une sorte de petite calculatrice qui était vendue dans le commerce. On pouvait trouver le code secret de ces cartes à puce. Donc, évidemment, ça a été au début un tollé. Heureusement, Roland Moreno a réussi à crypter plus facilement son process.
Il a même lancé un défi en 2000.
Voilà.
C'était quoi ce défi?
Vous avez raison. En 2000, il a lancé donc un défi à n'importe quelle personne. Il a offert 1 million de francs à celui qui arriverait donc à pirater son système, et personne n'y est arrivé.
Son invention l'a rendu riche, j'imagine.
Oui. En 1998, donc l'année où le brevet est tombé dans le domaine public, il a avoué qu'il avait déjà gagné 150 millions de francs.
Donc une belle histoire.
C'est quand même pas mal.
L'inventeur qui a bien cartonné sa carrière.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué parmi les personnages? Là, on en a cité quelques-uns. Il y en a encore beaucoup d'autres. Il y en a un dont vous voudriez dire un mot, peut-être. Je sais pas, Charles Tellier, Charles Boursel. Il y en a plein dans votre.
Oui, Charles Tellier, j'adore parce que c'est lui qui a inventé la mondialisation. Il a transporté de la viande de France en Argentine, dans un bateau frigorifique, inaugurant le système de transport de denrées périssables et la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Merci beaucoup, Hubert Delobet. C'était passionnant, votre livre « Ces Français qui ont révolutionné le monde, les tout autant », avec encore plein d'autres histoires qu'on n'a pas eu le temps de raconter. C'est publié au Papillon Rouge éditeur.
Dans notre seconde heure de curiosité, c'est un géant de la chanson qui nous attend. Frank Sinatra aurait eu 100 ans samedi, un destin fascinant que l'on va partager avec vous tout à l'heure.
Vous écoutez RTL.